Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Dans Tout sur Mein Kampf, l'historien Claude Kettel propose une étude de contextualisation consacrée au livre d'Adolf Hitler, rédigé après le putsch manqué de 1923 et publié en deux volumes en 1925 et 1926. L'objectif n'est ni de résumer complaisamment ni de réhabiliter ce texte, mais d'examiner les conditions de sa production, ses idées, ses usages politiques et sa longue postérité éditoriale. Construit autour de questions précises, l'ouvrage traite Mein Kampf comme une source historique, un manifeste confus, autobiographique et programmatique, dont la lecture isolée ne suffit pas à expliquer le nazisme ni les crimes du Troisième Reich. Kettel replace donc le texte dans l'Allemagne de l'après-guerre, dans la trajectoire de Hitler et dans les circulations internationales du livre, notamment françaises. Il aborde également les débats suscités par sa diffusion après 1945 et son entrée dans le domaine public. C'est ainsi moins un commentaire ligne à ligne qu'une enquête synthétique sur un objet idéologique, politique et mémoriel particulièrement chargé. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la genèse carcérale de Mein Kampf et la construction politique de Hitler. Kettel commence par la question essentielle de l'auteur avant le livre comprendre Mein Kampf suppose de ne pas l'isoler de l'itinéraire de Hitler, de la défaite allemande de 1918 et de la crise politique de la République de Weimar. Le texte est élaboré dans le contexte de l'emprisonnement qui suit l'échec du putsch de Munich de 1923. Cette séquence est décisive, Hitler n'est pas encore le chef d'un État, mais un militant nationaliste qui transforme une défaite tactique en tribune politique. Le livre lui permet de mettre en récit son parcours, de se présenter comme un homme façonné par la guerre et par les désordres de l'après-guerre, et de donner une apparente cohérence à ses obsessions idéologiques. L'intérêt de cette contextualisation est d'éviter deux erreurs symétriques, considérer le texte comme une prophétie parfaitement ordonnée du régime à venir, ou le réduire à une élucubration sans effet. Kettel montre que sa portée tient aussi à son insertion dans une culture de revanche, de nationalisme völkisch, d'anticommunisme et d'antisémitisme déjà présente dans certains milieux allemands. L'ouvrage aide ainsi à distinguer ce que Hitler reprend de son époque, ce qu'il radicalise et la façon dont il convertit ses thèmes en instruments de conquête politique. Deuxièmement, un manifeste idéologique où s'entrelacent revanche, racisme et conquête territoriale, l'analyse du contenu souligne la nature hybride de Mein Kampf. Le texte mêle souvenirs personnels, considérations de propagande, théorie politique, invective et projet national. Sa forme désordonnée et sa prose laborieuse ne doivent pas masquer la persistance de quelques noyaux idéologiques. Hitler y associe le rejet du traité de Versailles à une vision racialiste du monde. Fait de l'antisémitisme un principe explicatif général et présente le marxisme comme un ennemi existentiel. Il récuse le pluralisme parlementaire, exalte l'autorité du chef et défend l'idée d'une expansion allemande, notamment vers l'Est européen. Kettel invite donc à lire ce livre, non comme un programme administratif immédiatement applicable, mais comme un répertoire de convictions et d'objectifs politiques. Cette distinction est importante, tous les mécanismes ultérieurs du régime ne sont pas détaillés à l'avance, tandis que plusieurs orientations fondamentales, exclusion raciale, violence politique, guerre de conquête, sont bien énoncées. Le livre démontre ainsi qu'une idéologie peut être simultanément incohérente dans son expression et dangereusement conséquente dans ses effets. Il fournit des repères pour comprendre comment des formules répétées, des désignations d'ennemis et une vision hiérarchique des peuples ont servi à légitimer la radicalisation nazie. Troisièmement, ce que le texte annonce et ce qu'il ne permet pas d'expliquer seul, des crimes nazis. Une question centrale de l'enquête consiste à mesurer le rapport entre Mein Kampf et les crimes du Troisième Reich. Kettel refuse une lecture simpliste selon laquelle l'ensemble de la Shoah et de la politique exterminatrice aurait été exposé dans un plan détaillé dès les années 1920. L'extermination industrielle des Juifs d'Europe n'y est pas formulée sous la forme des dispositifs qui seront mis en œuvre pendant la guerre. Toutefois, le texte contient un antisémitisme radical déshumanisant et obsessionnel, ainsi qu'une conception raciale de l'État et de la guerre qui rendent intelligible l'horizon de violence du nazisme. Cette nuance est historiquement nécessaire. Elle empêche d'absoudre le livre au prétexte qu'il ne décrit pas tous les crimes futurs, mais elle évite aussi de confondre une idéologie, un régime et le processus concret de radicalisation qui mène au génocide. Les persécutions, la guerre à l'Est, les décisions institutionnelles et la dynamique du conflit ont donné à ces principes des formes toujours plus meurtrières. L'apport de Kettel est de rappeler que les textes comptent, sans être des causes autonomes, ils fournissent des justifications, structurent des représentations ennemies et indiquent des finalités. Mais leur traduction criminelle dépend aussi d'organisations, de circonstances et de choix politiques. Quatrièmement, diffusion allemande et lecture étrangère, un livre longtemps sous-estimé ou mal interprété. l'ouvrage s'intéresse à la carrière matérielle et internationale de Mein Kampf, dimension indispensable pour évaluer son influence réelle. En Allemagne, sa diffusion s'accroît fortement avec l'ascension, puis la prise du pouvoir par les nazis. Le livre acquiert alors une fonction symbolique, sociale et politique qui dépasse la lecture attentive de son contenu. Posséder l'ouvrage ou le recevoir dans certains cadres peut signifier l'adhésion au régime, sans démontrer que chacun en ait assimilé les thèses. Cette distinction entre tirage, possession, lecture et conviction protège contre les conclusions mécaniques sur son impact. Kettel examine aussi la réception hors d'Allemagne, particulièrement en France dans les années 1930. Les débats sur les traductions, les extraits, les avertissements disponibles et l'attention réellement accordée aux déclarations de Hitler éclairent les difficultés de perception du danger nazi. Il ne s'agit pas de soutenir que les contemporains ignoraient totalement le texte, mais de comprendre comment les intérêts diplomatiques, le pacifisme, les controverses éditoriales ou l'incrédulité ont pu limiter la portée des alertes, en suivant les éditions et les réactions nationales. Kettel déplace donc la question plutôt que demander seulement si le livre était disponible, il analyse ce que les sociétés étaient disposées à y voir, à croire et à prendre politiquement au sérieux. En dernier lieu, après 1945 Nuremberg, interdiction et controverse sur l'édition critique. La dernière dimension majeure est la postérité de Mein Kampf, après l'effondrement du nazisme. Le livre devient une pièce à la fois documentaire, judiciaire, mémorielle et éditoriale. Son évocation dans l'univers de l'après-guerre, y compris autour du procès de Nuremberg, renvoie à sa valeur de trace des objectifs et du langage du régime. Mais cette valeur historique nourrit aussi une difficulté durable, faut y empêcher sa circulation pour ne pas banaliser la haine, ou l'encadrer afin d'empêcher les usages falsificateurs et de permettre l'étude. Kettel restitue les termes de cette controverse sans traiter l'objet comme une curiosité interdite. L'entrée de l'œuvre dans le domaine public a ravivé le débat, notamment autour de la nécessité d'édition annotée et contextualisée. Une telle approche ne transforme pas le texte en œuvre légitime. Elle vise au contraire à signaler ses mensonges, ses manipulations et son cadre de production. Le livre de Kettel se distingue ici par l'attention portée à l'histoire éditoriale, elle-même les interdictions, rééditions et polémiques ne sont pas périphériques, car elles révèlent la manière dont chaque époque se rapporte au passé nazi. Comprendre cette postérité permet de dissocier l'analyse historique de la fascination, tout en reconnaissant qu'un texte de propagande peut continuer à circuler et à être instrumentalisé. En conclusion, tout sur Mein Kampf s'adresse d'abord aux lecteurs qui veulent comprendre le rôle historique d'un texte central du nazisme sans s'exposer directement à une prose de propagande. Confuse, raciste et souvent indigeste, il sera utile aux étudiants, aux enseignants, aux lecteurs d'histoire contemporaine et à toute personne confrontée au débat sur la réédition, l'interdiction ou l'annotation des textes extrémistes. Son bénéfice intellectuel est de fournir un cadre de lecture, il permet de situer les idées de Hitler dans leur contexte, d'évaluer ce que le livre annonçait réellement, puis de suivre les conditions variables de sa réception en Allemagne, en France et au-delà, par rapport à une biographie de Hitler ou à une histoire générale du Troisième Reich. L'ouvrage se singularise par son choix d'un objet précis et par l'ampleur des questions qu'il lui fait porter. Kettel ne confond ni le texte avec l'ensemble du système nazi, ni sa médiocrité littéraire avec son absence de danger politique. Il articule contenu idéologique, circulation éditoriale, usages sociaux et mémoire postérieure. Cette méthode offre une réponse plus solide que les postures opposant curiosité sensationnaliste et refus de toute connaissance. Le format synthétique, organisé par problème plutôt que par une lecture exhaustive, rend l'étude accessible tout en maintenant les distinctions historiques indispensables. Il constitue donc une porte d'entrée rigoureuse vers l'histoire de Mein Kampf, de sa réception et de son statut durablement polémique, plutôt qu'un substitut à l'étude plus large du nazisme et de la Shoah. Si vous souhaitez soutenir Claude Kettel, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.